Bienvenue dans ce module 11 de notre workshop de migration d'Internet Explorer en entreprise. On est conscient, bien évidemment, que vous avez déjà joué avec d'autres versions des navigateurs, que ce soit de la fondation Mozilla ou de chez Google ou de chez Opera. Donc ce module se propose un petit peu de comparer un petit peu ces navigateurs qui sont excellents, mais de voir là où Internet Explorer est peut-être plus intéressant en entreprise. Et donc on va parcourir ça sur ce module. Et je passe la main à Stan qui nous donne un peu plus d'infos sur ce sujet.
Alors David, est-ce que tu reconnais cette capture d'écran?
Oui, ils ont fait beaucoup de mal cette capture d'écran chez Microsoft.
Tu peux nous résumer un petit peu ce que c'est que cette capture d'écran?
Cette capture d'écran s'appelle le Ballot Screen. Il se trouve que certains acteurs concurrents disaient que voilà, Microsoft, en proposant Internet Explorer de facto sur son système d'exploitation, bénéficiait de sa position de quasi-monopole sur les systèmes d'exploitation et donc en profitait pour pousser son navigateur. Ils ont porté plainte auprès de la Commission européenne. Donc je crois que c'était Opera qui avait commencé, qui a été rejoint ensuite par Google et les différents autres acteurs. Et la Commission européenne, donc en Europe, a demandé à Microsoft de laisser le choix à l'utilisateur final, lequel des navigateurs il préférait utiliser.
Alors, du coup, on l'a implémenté.
Donc, quand vous installez, vous achetez une nouvelle machine, ou si vous aviez déjà une machine, vous avez peut-être reçu ce prompt-là qui vous demande, écoute, il existe d'autres navigateurs qu'Internet Explorer, souhaites-tu changer de navigateur?
Alors, ça, c'est peut-être raconter que l'histoire complètement, c'est que c'est une machine où forcément on va
perdre.
Voilà. Alors, quand on dit perdre, on va parler de part de marché, ça peut faire hérisser les poils de certains, mais dans le monde des navigateurs, on parle, désolé, mais on parle de part de marché, c'est-à-dire combien de pourcentage de gens utilisent le navigateur Intel ou le navigateur Intel.
Sachant qu'on partait de 90% avec iOS 6 il y a quelques années, on en est loin de là maintenant, avec le succès de Firefox et de Chrome. Et il faut préciser quand même pourquoi tu dis qu'on est forcément perdant. Il se trouve que ce ballot screen ne sera proposé qu'aux gens qui ont Internet Explorer comme navigateur par défaut. Imaginons que vous êtes à la maison, que vous avez déjà fait le choix d'un Firefox, et que le fait que vous ayez choisi Firefox, on ne va pas vous dire « tu sais qu'il existe aussi Chrome qui est vachement bien ou Opera ». Non, c'est uniquement les gens qui ont Internet Explorer comme navigateur par défaut à qui on va demander de confirmer leur choix ou d'en choisir un autre. Dès l'instant où vous aurez choisi un autre navigateur qu'Internet Explorer, on vous laisse tranquille.
Pour être même clair, en plus, si on choisit Internet Explorer, dans ce cas-là, on se retrouve sur un site web qui dit « Alors, pour que tu gardes Internet Explorer, il faut que tu, si tu es sous Windows 7, par exemple, pour faire bouton droit, mettre l'icône dans la barre de tâche, etc. » Ce qu'il faut reconnaître n'est pas forcément une opération toujours très simple pour, on va dire, un utilisateur lambda.
Voilà.
Donc, un peu une machine à perdre. Sur cet écran ici, on voit les cinq principaux acteurs aujourd'hui en termes de navigateurs sur le marché. Donc, on va commencer par, on va faire un mode décroissance de part de marché. Donc, le nôtre, Internet Explorer, dans sa version 8 ici, Firefox de la fondation Mozilla, Chrome de Google. Ensuite, on doit avoir Safari d'Apple et puis le dernier qui est Opera.
En termes de part de marché, oui.
En part de marché. Donc, effectivement, Opera, c'est un peu à déclencher cette opération et quelque part, à l'origine de ce ballot screen, à l'origine. Ça a dû bien leur servir parce qu'aujourd'hui, ils étaient à 2,5% de part de marché mondial, ils doivent être à 2,3%.
Ils n'ont pas bougé et ça a fortement bénéficié en fait à Google Chrome, ce ballot screen, qui a mangé encore de la part de marché d'Internet Explorer et aussi un peu de Firefox.
Voilà. Et puis ce qu'on ne voit pas toujours dans ce ballot screen, c'est qu'en fait, là on est sur le premier écran et qu'il y a un deuxième écran caché, une sorte d'écran bonus, comme dans les DVD, il faut le trouver. Donc vous faites bouger la réglette en bas et vous allez découvrir des navigateurs dont personne n'a jamais entendu parler, dont la liste change. D'ailleurs, je me suis aperçu que la liste changeait régulièrement.
Ce qui est assez logique en fait, puisque déjà il y a eu une guerre du positionnement des endroits où on met les navigateurs, ce qui est aléatoire. Il y a eu tout un débat sur est-ce que l'algorithme est vraiment aléatoire, etc. Et là, il y a en fait les cinq principaux, mais il y en a d'autres qui auraient pu râler, qui sont cachés derrière, des navigateurs sombrement inconnus. Mais pour que ça soit vraiment fair, il faut que tout le monde soit présent dans ce ballot screen.
Voilà. Bon, alors là, on a dit qu'on parlait du monde de l'entreprise, donc on va déjà commencer à faire un petit peu de ménage.
On va garder ceux qui ont des grosses parts de marché, donc on enlève Opera et Safari.
Ceux qui, globalement, sont des navigateurs qui nous ont été remontés par nos clients, ou qu'on a pu voir chez nos clients comme étant utilisés en alternative en fait d'Internet Explorer. Donc globalement, ces deux-là, on les voit jamais, à part un aficionado, c'est très rare.
C'est rare.
Voilà, c'est très rare. Donc globalement, aujourd'hui, quand on a rencontré nos clients, ils nous ont challengé au niveau de IE. Genre, est-ce que je passe à IE8 parce que finalement, j'ai testé également Firefox, j'ai testé Chrome, etc.
question légitime.
Légitime, c'est tout à fait d'ailleurs normal de comparer. Après, toujours comparer peut-être ce qui est comparable. Et c'est vrai que souvent, on nous a fait les remarques, on nous les fait encore, hein, de dire « Ah ouais, mais IE, c'est tout pourri par rapport à Firefox ou Chrome, etc. » Et là, à ce moment-là, si on ne rajoute pas de numéro derrière le nom du navigateur, bah, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Il faut comparer aussi ce qui est comparable. On parle d'IE6. Alors, il faut comprendre aussi l'utilisateur standard qui utilise son navigateur entreprise, qui est un IE6 sur un Windows XP, donc dans l'entreprise, et qui à la maison a un Windows 7, par exemple, avec un Firefox ou un Chrome, ou voire un IE8. Clairement, on peut comprendre qu'ils disent que IE6...
Ils ne vivent pas dans la même génération temporelle. Hein.
Exactement. Et en fait, si on se replace temporellement à l'échelle, on va dire, des 10 dernières années... C'est bon de replacer un petit peu quand sont sortis les derniers navigateurs. Alors IE6 est un vieux pépère, on va dire, maintenant. Donc il date de 2001. Il est sorti donc avec Windows XP, donc il est présent nativement dans le système. Il a été conçu dans les années 2000, parce que vous vous doutez bien qu'il n'a pas été conçu 2 mois avant la sortie de Windows XP. Donc on va dire dans les années 99-2000, eh bien IE effectivement était en gestation, IE6 était en gestation. À l'époque, ben on avait 90% de parts de marché. On venait de gagner la guerre face à Netscape.
La première guerre des navigateurs.
La première guerre des navigateurs. Donc IE4 avait fini d'enterrer, on va dire, Netscape 3-4. Voilà. Et puis du coup, ben, on était dans une situation, on va dire, réellement dominante. Et du coup, ben, faut être clair, hein, on n'a pas fait grand-chose.
On a arrêté d'investir sur le navigateur. Donc on s'est reposé clairement sur nos lauriers. Et les ressources ont été réaffectées vers d'autres projets, hein, comme fait beaucoup une entreprise commerciale. Une fois qu'on estime avoir fini un produit qui tourne bien, pas de raison principale de le faire évoluer.
Ouais, ou qu'on est en situation de monopole un petit peu sur le produit.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Feu Netscape
Alors peut-être préciser quand même que IE a légèrement quand même évolué avec la version du SP2.
Hein, si tu m'expliques.
Qui, effectivement, qui en fait était quand même une sorte de rupture au niveau d'IE, parce qu'en fait on avait beaucoup plus de sécurité. Et donc ça a fait des situations d'incompatibilité justement, parce qu'on avait vraiment bridé le système.
Au niveau des ActiveX notamment.
Typiquement au niveau des ActiveX. En 2006, on a eu IE7 qui est arrivé nativement avec Windows Vista. IE8 est arrivé nativement avec Windows 7.
Moi j'estime qu'on a vraiment repris la main on va dire de manière sérieuse sur le navigateur sur IE8. Oui. Parce que IE7 c'était les onglets. Firefox à l'époque nous challengeait pas mal sur ce point-là, en tout cas pour le grand public. Et IE8 a remis pas mal à jour au niveau de la sécurité, surtout le respect des standards avec HTML4 et CSS2. On vous en a déjà parlé.
Tout à fait. Effectivement, tu nous as parlé de Firefox et la fondation Mozilla. Donc Firefox en fait vient de feu Netscape, en fait, a permis de faire renaître entre guillemets
le phénix de ses cendres.
Voilà, le phénix de ses cendres.
Ou le Pandarou de ses cendres.
Le Pandarou de ses cendres. Mais à l'origine, le produit s'appelait Phoenix, les premières bêta. Donc, c'est
tu m'en
pas innocent.
Merci Stan.
N'hésite pas.
Historien.
Historien du web. Donc, effectivement, bah, en fait, quand on regarde la première version, on va dire RTM, finalisée de Firefox, la version 1.0, bien, elle date de 2004. Donc, aujourd'hui, si on devait comparer un IE6 à un Firefox, bah, déjà, ce serait un IE6 SP2 qu'on comparait. Un Firefox 1.0. Bah, idem, un IE7, on comparait plutôt à un Firefox 2.0, un IE8 à un 3.5, d'accord. Et puis IE9, on le comparera, et là ce sera légitime, on le comparera probablement à Firefox 4.
Et à Chrome 22.
Chrome 12 ou 13 à peu près, sachant que voilà, ils ont un cycle de vie qui est un peu plus rapide. Alors, effectivement, on a eu un contre-pouvoir aux navigateurs commerciaux, donc quasiment le seul qu'il y avait à l'époque, qui était donc Internet Explorer, avec la Fondation, qui est donc de l'open source, qui vient donc du monde libre, et qui est clairement a imposé et a fait de l'innovation sur pas mal de points. Effectivement, tu nous as parlé des onglets tout à l'heure. Les premiers navigateurs réellement à s'être imposés en large bande auprès du grand public avec les onglets, c'est Firefox.
Tout un écosystème d'extensions, etc.
Exactement.
Et un très bon support de HTML5.
Voilà. Et puis, le monde aurait pu rester comme ça, avec des acteurs mineurs, mais en fait, en 2009... Google, en fait, a annoncé sa version, son navigateur, ce qui est compréhensible, effectivement. Hein, Google n'avait pas forcément envie d'avoir et de voir l'accès à ses services fait uniquement par...
Des navigateurs d'autres.
D'autres, exactement, tout simplement.
Et donc là, ils ont un rythme très très rapide par rapport aux autres quand même.
Alors oui, effectivement, parce que à la date de cette vidéo, hein, qui est filmée en janvier 2011, on est aujourd'hui à Chrome 8, alors que Chrome est sorti milieu 2009. Et donc aujourd'hui, le cycle de vie en fait de Chrome, de Google Chrome, est relativement court. Il est officiel, hein, il est d'environ une version, nouvelle version
majeure toutes les 6 semaines. C'est ça.
Voilà, sachant que le majeur après ne veut plus dire grand chose en fait. Il y a aussi un aspect marketing derrière qui effectivement, on a l'impression que le navigateur évolue. Ça permet de faire un peu de buzz dans la presse aussi, de dire voilà une nouvelle version est arrivée, la version 8, la version 9, etc. Mais effectivement aujourd'hui, ils font une version streamée stabilisée. Toutes les 6 semaines.
Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à voir en termes d'évolution de fonctionnalité ou de correction par rapport à nos releases majeures ou les releases majeures de Firefox. Quand Firefox va passer à la version 4, il y a toute une palanquée de nouveautés qui vont arriver dedans.
Clairement, oui.
Et ça justifie, à mon sens, l'utilisation de version majeure. Là où chez Chrome, c'est des corrections de bugs, des pseudo-ajouts de fonctionnalités. C'est très léger par rapport à ce qui se passe chez les autres.
Voilà. Mais en fait, ça a une importance à deux raisons. La première, c'est que, je le rappelle en termes de support, IE6 qui a été conçu en 2001 est supporté jusqu'en 2014. Donc nous, on a un support d'entreprise qui est historique, on a toujours supporté IE une grande durée. Alors ça peut être un point positif ou un point négatif. En général, les entreprises apprécient quand même de ne pas avoir à requalifier l'ensemble de leurs applications, de leurs masters, toutes les 6 semaines.
Tu m'étonnes.
Faut être clair là, sur le sujet. Deuxième point, effectivement, c'est que... sur la numérotation, on peut nous dire, à contrario, oui, mais la numérotation, c'est un code développeur, on s'en moque, c'est pas important. Bah, en même temps, Android, ils le font évoluer de version 0.1 en 0.1, ils le font pas évoluer.
Ils sont capables de le faire sur Android, mais ils ont plus de mal sur Chrome.
Ouais, sur la numérotation. Mmh. Savoir, c'est que surtout, en fait, quand on regarde aujourd'hui, le fait de monter de version en version comme ça, ça devient difficile de suivre en fait l'évolution en termes de nombre de vulnérabilités, etc. Et en termes de support également. Aujourd'hui, en gros, si vous êtes sur un Chrome 3, un Chrome 5, un Chrome 6, si vous n'avez pas la mise à jour qui est automatique, mais ça peut être dangereux dans le cas des applications, s'il y a des choses qui sont cassées entre une version X et une version X plus 1, eh bien, globalement, vous n'êtes pas supporté aujourd'hui par Google. En tout cas, il n'y a aucun document officiel sur le sujet.
Donc, en fait, la vitesse où ils vont implique aussi, quelque part, une obligation de le déployer si on veut garder la supportabilité du navigateur.
Une obligation à être constamment à jour avec la dernière version, et donc, finalement, à subir, quelque part,
la requalification complète de son parc d'application.
En cas de changement de fonctionnalité pour des raisons de sécurité ou autre, ce qu'on a déjà vu, nous, à l'époque, il y a 10 ans, avec IE6 ou IE6 SP2, potentiellement, ça peut arriver, donc il faut juste en tenir compte. Peut-être, après, il faut être tout à fait clair sur le fait que ce soit la fondation Firefox ou que ce soit Google avec son navigateur Chrome, l'objectif pour l'instant aujourd'hui, il est de prendre de la part de marché, donc d'avoir une existence reconnue sur le web pour avoir une influence sur le web, et qu'aujourd'hui, il est plus facile d'aller chercher des consommateurs finaux.
L'entreprise.
L'utilisateur final.
Ce qui est embêtant, qui va demander du support,
qui va qualifier, le déploiement, etc. Enfin, on voit bien si aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont encore en IE6, c'est finalement migrer d'un navigateur X vers X plus 1, etc.
C'est
pas simple que ça et c'est pas toujours une priorité en termes de budget, etc. Donc, effectivement, c'est plus simple aujourd'hui de viser le grand public et c'est clairement l'objectif de Google Chrome ou de Firefox.
En termes de support, on nous a parlé de Chrome, qu'en est-il de Firefox? Imaginons que j'ai déployé du Firefox 3. Et que j'ai qualifié mes applications dessus, je suis tranquille pendant aussi 11 ans comme chez Microsoft ou...
Non, alors le support en termes de version dans la fondation Mozilla est plus important que chez Google. Il reste limité. Prenons le cas de la 3.0 par exemple, qui est sortie donc milieu 2008. La 3.0, son support a été arrêté en mars dernier avec la dernière mise à jour de sécurité qui était la 3.0.19.
Donc, quels sont les impacts que j'ai de comprendre? J'ai une faille de sécurité et j'ai un Firefox 3.0.19. Je n'aurais pas de correction sur bien.
Aujourd'hui, voilà, toute nouvelle vulnérabilité détectée sur un Firefox sera corrigée aujourd'hui en 3.6 et en 3.5. Donc bientôt, ce sera en 4 et en 3.6. Probablement que la 3.5 va disparaître également de la liste des versions supportées. Aujourd'hui, une 3.0, en fait, il n'y a pas de correctif. Donc ça veut dire que ce bug il est probablement dans la 3.0, il y a quand même de grandes chances. Et que globalement, l'entreprise, potentiellement...
Pour avoir la correction, doit déployer la nouvelle version, en fait.
Des bonnes versions, ou alors elle peut toujours aller chercher les sources et modifier elle-même, mais ouais. Ça dans la réalité, enfin...
Ça n'existe pas, ouais. Enfin, très rarement.
Très rarement, voilà.
Ok, donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est On va essayer d'être fair lorsqu'on va présenter IE9 et qu'on compare les navigateurs. On comparera IE9 à Firefox 4, à Chrome
8.
9 ou 10 dans les versions alpha ou bêta,
Voilà.
en activant d'ailleurs leurs dernières features, ce qu'ils ne font pas forcément par défaut. Donc ne comparez plus un IE 6
Voilà.
à un Chrome 8 ou un IE 6 à un Firefox 3.6 ou 4. Retenez que voilà, chacun vient d'une génération différente et que nous aussi nous avons fait évoluer nos navigateurs.
Voilà. Plus lentement que les autres,
Plus
peut-être.
lentement, mais pour des raisons aussi
Voilà,
liées
qui
à
sont
l'entreprise.
compréhensibles. Voilà, tout à fait. Alors,
Alors, c'est une passoire ou pas cette IE?
ça ne veut rien dire en fait. Quand on parle de sécurité, il peut y avoir différents débats sur différents angles. On peut parler des fonctionnalités en tant que telles, hein, des navigateurs. Si on regarde aujourd'hui les dernières générations, c'est-à-dire IE8, IE9, Firefox 3.6, Firefox 4 ou Google, alors, je ne sais pas quelle version de données, mais vu que ça fait ça 2 ans, on va dire de Google 2 à Google Chrome 8, globalement, tous les navigateurs se sont réellement améliorés dans les dernières années. Ont implémenté tous nativement des mécanismes de type anti-phishing, protection des URL, support des certificats
Sandboxing.
anti-sandboxing, etc. Donc globalement, si on est très factuel et qu'on regarde à peu près techniquement les différents navigateurs, ils implémentent plus ou moins tous les mêmes technologies permettant de protéger les différentes attaques. Après, on peut regarder en termes de nombre de bulletins de sécurité si un navigateur en a plus que d'autres. Alors le bulletin de sécurité, après on peut voir ça sur les sources directement des éditeurs. On peut également prendre des bases tierces. Là je prends une base qui est à peu près connue par tout le monde, s'appelle secunia.com, qui recense en gros les vulnérabilités et les bulletins d'alerte des différents acteurs du monde du logiciel.
Elle est payée par Microsoft, je suis sûr.
C'est indépendant, c'est pas toujours notre faveur. Donc c'est pour ça que je prends cette base qui est pour moi assez indépendante en
Ah,
tout cas.
pourquoi je dis
En tout
ça? Parce
cas.
qu'il est relativement difficile de trouver des études totalement indépendantes lorsqu'on parle de
Bien
sécurité.
sûr.
Elles sont souvent commanditées par un acteur principal qui va payer l'entreprise en question
Voilà.
pour faire
Ce qui ne veut pas
l'étude.
dire que l'étude sera faussée, mais
Et
on peut penser.
forcément, si ensuite l'éditeur en question la publie, a priori c'est qu'elle est en sa faveur malgré tout. Donc les gens ont tendance à dire, tel éditeur a payé pour avoir du bon buzz sur son produit.
En même temps, écrire une vraie étude de sécurité et la faire sur plein de navigateurs, ça prend des ressources et du temps, et les entreprises, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, effectivement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à un moment qui paye, entre guillemets, ces éditeurs. On pourrait imaginer une sorte de fonds mondial des éditeurs de logiciels qui mettraient de l'argent
Bien
pour faire
sûr,
une cagnotte, mais
on n'y
bon,
croit pas trop.
c'est un peu utopiste. Donc, si on parle en termes de bulletins de sécurité, qui sont en bleu ici dans ce graphique, pour dire, tel navigateur a plus ou moins de bulletins par rapport aux autres. Bon, dans les faits, en fait, un bulletin peut contenir des vulnérabilités, donc peut contenir plusieurs failles. Donc ça ne veut rien dire. Le nombre de bulletins en tant que tel, on pourrait dire, j'ai 3 bulletins, mais qui en contiennent 50 failles, alors qu'à côté, j'ai 5 bulletins qui en contiennent 3 chacune. Donc là-dessus, le nombre de bulletins n'est pas forcément très représentatif.
Il faut comparer les
Donc,
deux en fait. Les vulnérabilités sont intéressantes
vaut mieux, je pense qu'à mon avis, c'est plus intéressant de comparer le nombre de vulnérabilités, c'est-à-dire en gros combien de failles ont été découvertes et patchées potentiellement, en général elles le sont. Là, si on reprend ce graphe, en fait, on est chronologique là encore. On part alors sur ma gauche, du IE6 qui est sorti en 2001, et puis à la fin, on a Chrome 8 qui est sorti donc en décembre 2010. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on voit que le nombre de vulnérabilités est plus faible dans le temps, simplement parce que tous les éditeurs apprennent et commencent à développer de plus en plus avec des méthodologies sécurisées. Donc, pour limiter le risque, ça fait partie maintenant des prérequis forts d'un navigateur d'être fortement testé en termes de sécurité.
En même temps, il faut coupler ça au fait que IE6 existe sur le marché depuis 2001, donc forcément a été fortement analysé par les hackers pour trouver les bulletins, enfin les
Exactement.
failles de sécurité. Et de l'autre côté, un Chrome 8 qui vient de sortir en décembre 2010, on n'a en fait aucune idée de est-ce qu'il est sécurisé ou pas.
Exactement, sachant que pour la partie Chrome, c'est assez difficile de faire le chiffrage du nombre de vulnérabilités si on considère que est-ce qu'un Chrome 8. Dans les bases, déjà, les bases n'évoluent plus sur Chrome 6, Chrome 7, Chrome 5 parce que c'est d'autres versions et qu'elles ne sont plus maintenues, celles-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à jour pour Chrome 5, juste de la partie des failles de sécurité.
Ouais,
Donc, ça
d'accord.
devient difficile. Est-ce qu'on devrait cumuler en fait ce chiffre-là parce que finalement Chrome est toujours la même version et qu'elle augmente comme ça? C'est assez difficile. Je pense d'ailleurs que c'est également un peu voulu également par Google pour être tout à fait clair. Donc, effectivement, dans le temps, plus on va avoir un historique dans le temps, plus on trouvera effectivement potentiellement des failles. Maintenant, il faut être clair qu'un navigateur qui a été conçu en 2001 versus un qui est conçu en 2010, eh bien, il y a eu une expérience qui a été faite entre-temps en termes de bonnes pratiques, etc., qui font que dans tous les cas, la même version, enfin la version X et X plus plus T du navigateur sera forcément la plus récente, sera plus sécurisée parce que bah, voilà, les contraintes ne sont plus les mêmes aujourd'hui.
Et qu'on donc, a, de toute façon, que vous choisissiez notre version de navigateur ou celle des concurrents, vous aurez un navigateur plus sécurisé.
Dans tous les cas, en gros, il faut utiliser un navigateur de dernière génération, qu'il soit chez nous ou chez d'autres.
Ces chiffres à mettre en perspective aussi sur les parts de marché de chacun.
Bien sûr,
parce que les hackers s'intéressent aux bases installées les plus importantes.
Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est avant tout du business. Et globalement, si vous avez aujourd'hui encore 30% d'utilisateurs, enfin je dis un chiffre, là c'est n'importe quoi, j'ai plus le chiffre, mais 30% d'utilisateurs qui sont sur IE6, bah, ça vous coûte encore de chercher dans IE6, s'il n'y a pas des failles. Sur ce point-là, d'ailleurs, à noter que dans les pays asiatiques, type la Chine, la Corée, etc., on a encore une très forte proportion en fait,
d'IE6,
ouais. Pour des raisons historiques, pour des raisons aussi que bah, certaines banques ou autres organisations en fait, ont fait des applications à l'époque, peut-être très liées à IE, qui font qu'elles bah, n'ont pas passé la compatibilité. Et que, plus le fait également que comme il y a beaucoup de piratage dans ces pays, eh bien, globalement, le Microsoft Debt ne peut pas être activé parce que le poste n'est pas genuine. Et donc, du coup, il ne reçoit pas la mise à jour IE8 et il reste en IE6. Donc, il faut effectivement mettre en perspective que les parts de marché jouent également sur le fait que les gens vont se pencher sur le sujet pour essayer de trouver des failles parce que économiquement, c'est intéressant de réexploiter ces failles.
Et malgré tout ça, donc on vient d'expliquer les parts de marché, les dates des navigateurs, eh ben, on s'aperçoit qu'Internet Explorer s'en sort quand même pas si mal que ça.
Oui, alors si on regarde effectivement les barres, bah, c'est logique que IE6 soit le plus élevé, ou entre guillemets le moins sécurisé, ou celui qui a le plus de vulnérabilité. IE7 a bien baissé. IE8, je dois dire que depuis 2 ans qu'il est sorti,
tient bien la route,
hein. On est plutôt pas mal, on doit être environ à 75 failles à peu près d'après le schéma ici. Si on se met en perspective, donc on a dit qu'on devrait comparer ce qui est comparable. Donc
un Firefox 3.5.
Par rapport à Firefox 3.5, vous voyez qu'ici Firefox 3.5 est à peu près à 135, 140 vulnérabilités trouvées alors que les deux produits sont sortis en même temps. Alors effectivement, si on prend les parts de marché pure des navigateurs, on ne doit pas être très très loin l'un de l'autre. On parle, si on compare la part de marché d'IE8
à celle de Firefox 3.5. Ouais.
Donc globalement, on peut ici éliminer la partie économique. Et donc globalement, c'est pas beaucoup de gens ont survendu peut-être le fait que dans le monde libre, les failles étaient trouvées plus vite, etc.
Il n'y avait pas de failles du tout.
Il n'y avait pas de failles, etc. Bah dans les faits, quand on regarde, finalement, on n'a vraiment pas à rougir sur du travail qui a été fait sur
IE8. Même plutôt meilleur, j'aurais tendance à dire.
Oui, oui, je voulais rester modeste sur ce point-là.
Alors donc après, on vous invite à aller sur ce site Secunia pour faire votre propre avis. Si vous ne croyez pas ces graphes, vous avez des chiffres détaillés, vous pouvez vous-même refaire le graphique à la maison et revérifier 12 fois que bien IE8 est bien plus sécurisé sur ce graphe qu'un Firefox 3.5.
Voilà. Oui, je voulais juste préciser quand même que si on regarde ce graphe, en gros, tout ce qui est aujourd'hui en petit stop, en orange, ce sont les versions qui sont non supportées. Donc vous voyez que j'ai mis des petits stops jusqu'à Chrome 7, simplement parce qu'aujourd'hui, si on regarde factuellement dans ces bases, on n'a plus de nouvelles vulnérabilités censées être détectées pour Chrome 7. On estime qu'aujourd'hui, on ne travaille que sur Chrome 8. Mmh. Alors, si on fait le choix de Firefox en entreprise, globalement, il faut savoir quelques points. Tout d'abord, si vous utilisez des certificats générés par une autorité de certification d'entreprise, tels que dans un Active Directory par exemple ou autre, donc vous avez des certificats du HTTPS en interne, il y a des grandes chances que vous ayez avec Firefox ce message-là qui est de dire attention, la connexion elle n'est pas sûre parce que je ne reconnais pas ton certificat. De base, en fait, un navigateur reconnaît des autorités de certification, celles qui sont publiques sur Internet, les VeriSign ou autres. Donc en gros, il y a un certain nombre d'autorités qui sont déjà reconnues par défaut dans le système. Quand on va utiliser sa propre autorité de certification, eh bien, il va falloir la déclarer dans les bases en fait, de certification du poste de travail. Quand on est dans un monde Windows, donc avec l'IE par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec du Chrome, eh bien Windows en fait a ses propres, ce qu'on appelle ses magasins de certificats dans lesquels en fait automatiquement
l'application va piocher en fait.
Va piocher et donc automatiquement via l'Active Directory d'autres mécanismes, en gros c'est rempli pour l'utilisateur et globalement bah, les navigateurs, enfin les autres navigateurs en gros regardent dans ce magasin commun à Windows et disent ok, l'autorité de certification de l'entreprise elle est reconnue et donc je n'ai pas de problème à naviguer sur le HTTPS avec des certificats internes. Firefox c'est différent, Firefox en fait a une gestion des certificats et a son propre magasin. Ce qui signifie que même si vous êtes dans un environnement Windows où vous remplissez les magasins de l'OS de manière automatique, ce ne sera pas fait en fait pour Firefox.
Firefox ne va pas piocher là-dedans, c'est
non,
ça.
Firefox a sa gestion indépendante des certificats, donc il va falloir alimenter cette gestion indépendante avec vos certificats d'autorité de certification typiquement internes. C'est à savoir, sinon l'utilisateur va être face à ce problème et du coup bah, c'est peut-être un petit peu...
Donc ça implique en gros un double déploiement des certificats, quoi.
Oui, tout à
Et
fait.
une double gestion. Okay.
Et une double gestion. Autre élément également, c'est la partie authentification. Je pense qu'aujourd'hui, en entreprise, pour peu qu'on utilise du SharePoint, ou des produits un peu intégrés, on va
Ouf,
dire.
là, même quand on fait un développement web basé sur les technos Microsoft, on est en authentification intégrée.
Ouais, ce qui basiquement veut dire en tant qu'utilisateur, on se connecte au site web, l'authentification elle est faite derrière de manière complètement transparente, et l'utilisateur passe d'un site à l'autre sans avoir à se réauthentifier. Alors il arrive dans certains cas, en fonction des modèles d'authentification et des annuaires qui ont pu être implémentés dans les entreprises, que l'utilisateur ait à se réauthentifier sur les applications. Dans l'esprit, ça fait des années qu'on essaie de faire ce qu'on appelle du single sign-on et d'éviter à l'utilisateur de chaque fois avoir à se réauthentifier
Qui se
chaque fois
connecte
qu'il fait
sur
un
sa
site.
station de travail et ça lui permet d'utiliser son jeu de credentials sur les applications sur lesquelles il va aller naviguer.
Exactement. Alors ça, par défaut, dans Firefox, Firefox ne rejouera pas l'authentification intégrée auprès des serveurs et donc l'utilisateur va être prompté, donc va devoir ressaisir son authentification. Alors c'est vrai que si on reste sur un navigateur chargé, ça va. Si on ouvre régulièrement son navigateur pour une application ou autre.
Va pouvoir rentrer ses credentials à nouveau.
Voilà. Donc c'est customisable, mais après c'est site par site. Voilà, on va dire qu'il n'y a rien qui est entre guillemets intégré pour l'authentification intégrée dans Firefox. Alors, malgré tout, il y a quand même des bons points. On ne peut pas taper sur Firefox spécialement sur certains points, notamment ceci.
Ils sont multiplateformes, ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que nous, on est
Alors,
multiplateforme Windows.
voilà.
Ils sont multiplateformes tout court. Donc, on le retrouve sur des machines Linux, sur des Macs, sur des téléphones. Il est rapide. Ça, personne ne peut le nier. Même si la course à la rapidité aujourd'hui a un peu changé par rapport à il y a quelques mois, quelques années, il reste très rapide. Un excellent support des standards. La fondation, historiquement, a toujours été axée dans ce sens-là. Donc, on parle de HTML5, de CSS3, de SVG, tout ça. Il y a un très bon support des standards. Et très bon point pour eux, on peut installer plusieurs versions possibles en side by side, c'est-à-dire que je peux avoir un répertoire avec la 3.5 et la 3.6 à côté.
À noter par contre qu'il y aura peut-être que quelques petits chevauchements sur certains paramétrages qui vont se récupérer les uns par rapport aux autres, mais ça c'est globalement ça fonctionne.
Ça fonctionne, par contre, vos plugins, éventuellement, il faut les mettre à jour, regarder s'il y a une nouvelle version, bon, ça, il n'y a pas de magie. Dans le monde de l'entreprise, alors ça pour le grand public, finalement, c'est un très bon navigateur, on voit pas de soucis. Dans le grand public, ça pose dans l'entreprise, ça pose soucis puisqu'on n'a pas d'outil de packaging, dans le sens où on peut pas créer son package personnalisé, on va déjà pré-provisionner ses favoris pour ensuite le donner à un outil de télédistribution.
Ouais, en gros, l'IUAK, l'équivalent de l'IUAK, n'y existe pas en fait dans le
Il
monde
existe.
de la fondation. Alors, il y a eu une tentative de projet qui s'appelait le CCK, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait s'est arrêté vers la version 2.0 de Firefox. Et donc, globalement, aujourd'hui, on va dire que de manière libre et supportée dans la fondation, il n'y a pas de projet d'outil de packaging.
Et pour être honnête, c'est pas quelque chose qui semble les intéresser, le support de l'entreprise aujourd'hui. Ils ont vraiment une vision grand public,
Oui,
large
sûrement.
bande. Donc ils n'ont pas de ressources dédiées aujourd'hui à la création de support de l'entreprise. Là où nous, finalement, historiquement, Internet Explorer, c'est plutôt l'inverse. Il part du monde de l'entreprise et il est également conçu pour le grand public.
Peut-être préciser que les entreprises commerciales, elles, ont vu quand même un filon derrière tout ça et proposent en fait de packager, entre guillemets, donc de faire des packages d'installation de Firefox, moyennant bien entendu
Faut les payer,
rétribution. Oui.
bien sûr. Alors, dans les autres choses qu'on a remarquées, il n'y a pas de gestion centralisée des GPO, bien qu'il y ait eu des projets également commerciaux de fabriquer, il existe toujours
Qui
des
existe toujours,
GPO
oui.
qui ont un peu de mal souvent à suivre les versions de Firefox, c'est-à-dire qu'on a toujours un décalage de version. Par contre, sont payantes également, forcément, hein, les gens fabriquent des GPO pour vous, donc ils vont les revendre. On remarque forcément, il y aurait pu avoir une communauté qui le crée de manière libre, mais
Ça
ce n'est
avait
pas
été
le cas.
tenté effectivement, mais en fait les paramètres d'un navigateur pouvant être assez élevés. Hein. Pour info, nous on est à peu près à 1300 sur IE8, peut-être à 1500, 1600 sur IE9. Donc ça fait un certain nombre de paramètres à suivre derrière et puis à vérifier, à tester, hein, ça se qualifie également.
Donc on rappelle pas de gestion de certificats indépendants de Windows, il a son propre magasin de certification. Pas de support d'authentification Windows transparente, donc il y a le support de NTLM mais vous êtes prompté. Et pas de support des ActiveX, alors ça c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Nous avons poussé les ActiveX à une époque et on en paye un peu aujourd'hui les pots cassés dans les projets de migration. Mais malgré tout, ça crée quand même une dépendance sur IE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres navigateurs qui supportent les ActiveX comme on le fait avec Internet
Donc
Explorer.
c'est un peu difficile en fait d'arriver à switcher, d'avoir les deux navigateurs, l'IE et le Firefox par exemple, bah, simplement parce que l'utilisateur un petit peu à la fin il va plus trop savoir où il doit aller quoi.
Alors, ce qu'on a vu, c'est que des gens, de manière individuelle, s'installaient un Firefox, mais du coup, ils n'étaient pas vus par l'administration centrale, c'est qu'il n'était pas managé. Donc typiquement, s'il y avait une faille de sécurité découverte, on ne le mettait pas à jour. Au niveau du support, les gens s'aperçoivent qu'il y a des entrées de navigateurs qu'ils ne connaissent pas. Donc ça pose un petit peu problème puisqu'on ne peut pas le piloter de manière centralisée Firefox aujourd'hui. Côté de Chrome, je continue. Chrome qui est également multiplateforme, qui est sur du Mac, du PC, du Linux. Particulièrement rapide. Il a longtemps été le plus rapide d'ailleurs sur certains points, comme le JavaScript, même si là on en parlera après.
Tu parles au passé comme ça.
Ouais, on a tellement remonté la pointe qu'on est passé premier sur certains benchmarks. Au niveau des supports des standards, lié au fait qu'un des acteurs principaux du HTML5 vient de chez Google, ils sont très très bons sur HTML5.
On devrait préciser, là, ici, on parle des standards futurs ou émergents, voilà. Parce qu'aujourd'hui, rien
n'est... J'entends très très bon, c'est-à-dire qu'ils implémentent rapidement des drafts, même des parties sont non finies, mais ils vont beaucoup plus vite que les autres sur le cycle, quitte à implémenter des choses qui ne sont pas finies, quitte à les retirer également. Lorsqu'on parle des WebSockets avec les soucis qu'on a eu en termes de sécurité, des fois ils vont peut-être un peu trop vite, plus vite que la musique.
Je crois qu'ils ne les ont pas retirés, les WebSockets.
Ils ont fini par le faire aussi.
Ouais,
et tout le monde l'a fait. Gros point malin de la part de Google, il s'installe avec les privilèges utilisateurs. Donc les autres ont besoin des droits admin. Et donc si un utilisateur, eh ben l'admin veut pas qu'il ait autre chose qui lui dit oh, c'est nul, il me faut un Chrome, on peut l'installer avec les droits utilisateurs. Ils vont tomber aussi dans votre profil utilisateur. Donc, si vous avez des profils itinérants, ça arrive quand même de moins en moins, mais du coup il y a quand même un Chrome qui va se balader avec.
Enfin le Chrome et puis ses fichiers temporaires.
Et puis le cache, etc. de Chrome. Donc ça gonfle pas mal les profils utilisateurs. Vous, vous contrôlez plus rien en tant qu'administrateur de ce que les gens font. Pas d'outils de packaging. Aujourd'hui, en fait, on a trouvé encore moins de choses de la part de Chrome que même de Mozilla, de Firefox, où il existait des solutions payantes. Là, il n'y a pas de gestion centralisée de GPO non plus, à part une.
En fait, ils sont en train de changer. Là ils ont compris que... Google sont assez forts sur le sujet. Ils ont compris qu'il y a peut-être quelques petites parts de marché à gagner dans l'entreprise. Donc, effectivement, ils ont commencé un petit peu à enrichir leur fonctionnalité. Donc, il commence à y avoir quelques GPO. Moi, je marque limité ici dans ce slide. J'aurais pu dire embryonnaire. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'ils commencent à parler de GPO. Ils commencent à parler de fichiers MSI. Mais bon, ils n'ont pas de packaging. Ils ont une doc qui est relativement inexistante sur le paramétrage détaillé du sujet.
Donc en conclusion, ils n'ont pas de support des ActiveX non plus, ça reste l'apanage de Microsoft. En conclusion, c'est Chrome, Google commence à s'intéresser au monde de l'entreprise, contrairement à Mozilla qui s'y intéressera certainement jamais. Mais aujourd'hui, par rapport à eux, on est quand même à des années-lumière sur le monde de l'entreprise.
Voilà.
Puis reste à surveiller sur les années suivantes.
Reste également à voir cette fameuse politique de support. Donc typiquement sur la fondation, ils ont fait une sorte de système de support qui fonctionne avec du Twitter par exemple, où donc il y a des volontaires, c'est le principe justement du monde libre aussi, qui aident les autres sur le sujet. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça d'un support entreprise, j'en suis pas certain. Chez Google, ils sont en train d'y penser, mais globalement, là encore, s'ils ne sont pas capables de figer dans le temps leur navigateur et d'éviter de changer de version toutes les 6 semaines et de devoir le redéployer toutes les 6 semaines, ce qui pose également un problème de bande passante, de gestion des versions, etc. En cas d'entreprise, et puis de dire dans la pérennité, dans le temps, finalement, si je fais le choix aujourd'hui de Chrome 8...
Qui va me soutenir dans 5 ou 10 ans, quoi.
Ouais, dans 5 ou 10 ans, où est-ce que je serai au niveau de mon navigateur? Je veux dire, est-ce que j'aurai toujours un support de la part de l'éditeur ou pas?
Tandis que chez Microsoft, vous l'avez bien compris, on supporte longtemps nos produits, et du coup... Pour donner un exemple, ici, dans ces bâtiments-là, en France, nous avons des ingénieurs français qui supportent le produit, donc qui peuvent venir chez vous, qui parlent français et qui connaissent très bien le produit, qui font des dumps mémoire. Enfin, on a un niveau de support excellent pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment la force d'Internet Explorer aujourd'hui face à ses concurrents dans l'entreprise. C'est tous les points qu'on vient de citer. Donc, ça conclut, il me semble, ce module 11. Sur les différents navigateurs, vous avez vu qu'on a quand même pas mal de force en entreprise, j'espère que vous l'aurez compris. Je vous propose qu'on se retrouve dans le module 12 consacré à IE9. Donc vous allez voir un petit peu ce qui vous attend pour le futur, pour qu'on fasse, j'espère, un petit peu rêver également de ce côté-là. À tout de suite.
À tout de suite.